France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le mercredi 4 septembre. Bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la première bataille perdue de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, lâché par une vingtaine de députés conservateurs, a été désavoué hier soir au Parlement. Énième rebondissement dont on parle, Agnès, après les autres titres.
Coupe sombre à Bercy, plus de 5000 postes supprimés d'ici 3 ans. Les longues vacances sud-américaines de Jean-Luc Mélenchon, manger bio, oui, pour préserver sa santé, mais à quel prix? L'éternel dilemme des consommateurs. Et puis les réunions de famille, source inépuisable d'inspiration pour le cinéma français, avec la sortie aujourd'hui de Fête de famille de Cédric Kahn.
Et les invités de France Inter, ce matin, justement, 7h50, Léa.
Agnès pose la question, mais au fait, il est où Jean-Luc Mélenchon? Eh bien, il est en Amérique latine, toujours en vadrouille en cette semaine de rentrée. Alors, manque-t-il à ses troupes? Quels sont les objectifs des insoumis? Après la défaite aux européennes et avant les municipales, on reçoit Alexis Corbière. Débuté la France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
A tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec le romancier philosophe Pascal Bruckner. Il publie Une brève éternité sous titre Philosophie de la longévité. C'est chez Grasset. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
Des cris, des gesticulations, des acclamations, des députés qui changent de camp en pleine séance. Une comédia dell'arte version palais de Westminster. Séance on ne peut plus houleuse hier soir au Parlement britannique. Séance qui s'est soldée par un revers cinglant pour Boris Johnson. Le Premier ministre a perdu sa majorité et il est désormais sous la menace d'une motion demandant un report du Brexit si aucun accord n'est trouvé avec Bruxelles d'ici le 31 octobre. Retour sur le film d'une soirée à rebondissement avec le correspondant de France Inter à Londres, Antoine Gignoux.
À l'annonce des résultats, une clameur et puis ce cri moqueur. Ça commence plutôt mal, Boris. Car s'il est largement battu, Boris Johnson est surtout trahi par 21 députés conservateurs et pas des moindres, parmi eux deux anciens ministres des Finances et le petit-fils de Churchill. À la tribune, le Premier ministre tente de contre-attaquer. Il accuse le Parlement de torpiller les négociations en cours et jure qu'il va déclencher des législatives anticipées.
Je ne veux pas d'une élection, mais si les députés votent en faveur d'un nouveau report inutile du Brexit, peut-être un report de plusieurs années, alors ce sera la seule solution.
Mais ce scrutin qui permettrait de dissoudre l'Assemblée, Boris Johnson ne peut pas l'organiser seul. Il lui faut le soutien des deux tiers des députés et les libéraux démocrates, comme Jeremy Corbyn à gauche, posent leurs conditions.
S'il veut déclencher des élections législatives anticipées, ok qu'il le fasse, mais qu'il fasse d'abord passer le texte qui permet d'écarter une sortie sans accord.
Proposition évidemment inacceptable pour le Premier ministre et le gouvernement. Le match de boxe reprend dans quelques heures. Londres. Antoine Gignot, France Inter.
L'opposition qui va donc effectivement présenter ce soir un texte pour demander un report du Brexit au 31 janvier 2020. Bruxelles, de son côté, dit attendre toujours des propositions concrètes de Londres. Et puis en urgence, le Trésor britannique a décidé de consacrer 2 milliards de livres supplémentaires aux préparatifs du Brexit.
Et le Trésor français, cette fois, se prépare, lui, à des coupes sombres.
Avec l'annonce hier soir de la suppression de 5800 postes au sein du ministère des Comptes publics d'ici 2022. Des suppressions liées à la mise en place du prélèvement de l'impôt à la source et la suppression de la taxe d'habitation. Le détail avec Sarah Lemoine.
Il y aura 5800 fonctionnaires de moins à la direction du budget. C'est ce que Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, a annoncé aux syndicats concernés. Ces nouvelles suppressions de postes interviendront en 2020, 2021 et 2022, ce qui signifie que 10 000 postes auront disparu de ce ministère sur l'ensemble du quinquennat. Pour justifier cette baisse des effectifs, le ministère évoque la mise en place du prélèvement de l'impôt à la source, la suppression progressive de la taxe d'habitation ou encore la suppression de petites taxes. Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'était engagé à supprimer 50 000 postes de fonctionnaires dans la fonction publique d'État avant de ramener cet objectif à 15 000 après la crise des Gilets jaunes. Au final, le ministère de l'Action et des Comptes publics va assumer à lui seul deux tiers de l'effort réclamé, avec un ministre, Gérald Darmanin, prêt à jouer jusqu'au bout le jeu de la réforme de l'État.
Et les syndicats dénoncent ces suppressions de postes et appellent à une première mobilisation dès le 16 septembre. Séminaire de rentrée pour un gouvernement élargi. L'équipe d'Édouard Philippe compte deux nouveaux membres. Jean-Paul Delevoye qui pilotera le dossier de la réforme des retraites et Jean-Baptiste Djebbari, lui en charge des transports. Les 37 ministres, secrétaires d'État et hauts commissaires se retrouvent donc à 10h à l'Élysée autour du chef de l'État afin de définir les enjeux et la méthode de travail pour l'acte 2 du quinquennat. Et tandis qu'on s'agite au plus haut sommet de l'État, Jean-Luc Mélenchon, lui, prend du recul. Il était attendu à Toulouse pour l'université d'été de la France insoumise il y a deux semaines, mais le député a préféré prolonger son séjour en Amérique latine. Décoré honoris causa par l'université de Buenos Aires ce mercredi, il doit maintenant rejoindre le sud du Brésil et la ville de Curitiba, où l'ancien président Lula est toujours emprisonné. Yael Gauz.
Jean-Luc Mélenchon n'est pas en marche, mais il fait son chemin, titre de son dernier blog, un long chemin, puisqu'il est parti le 12 juillet, une cure de politique sud-américaine, pour puiser des idées et reprendre des forces. À Mexico, il a même reçu les encouragements du président Obrador. « Vous êtes l'homme politique le mieux préparé et le plus intelligent d'Europe », lui a dit le chef d'État mexicain. En Uruguay, il est retourné voir Pepe Mujica, l'ancien président, guerrillero Tupamaros dans les années 70. Un retour aux sources pour préparer la suite. En Europe, c'est ce qu'il explique dans une vidéo postée fin juillet depuis Mexico.
Alors même qu'on nous annonçait que la fin de l'histoire allait se produire, eh bien non, la bataille continue. Il n'y a pas d'autre lieu dans le monde, sinon en Amérique du Sud, qui a été recherché une rupture avec les politiques néolibérales.
Et le moment le plus fort de sa tournée, c'est évidemment la visite qu'il s'apprête à rendre à Lula dans sa prison pour dénoncer les régimes qui instrumentalisent la justice contre leurs opposants au Brésil, en Argentine, mais l'insoumis pense aussi très fort à la France, car dans deux semaines, il sera jugé en correctionnel pour rébellion et provocation lors de la perquisition au siège du mouvement l'an dernier. L'Amérique latine comme miroir, Macri en Argentine comme Macron en France, écrit Mélenchon, qui ne fait pas de différence, convaincu qu'à Paris aussi, le pouvoir criminalise de plus en plus l'action politique.
Et rappelons qu'à 7h50, Alexis Corbière sera l'invité de Léa Salamé. Politique encore, et c'est aujourd'hui que Cédric Villani doit annoncer officiellement sa candidature pour les municipales à Paris. Une amende de 4 millions d'euros infligée à Amazon par la justice française qui lui reproche d'abuser de sa position dominante pour imposer aux TPE et PME françaises des clauses contractuelles manifestement déséquilibrées.
Il est 7h07, revenons à présent, Agnès, sur les premières mesures annoncé hier pour lutter contre les violences conjugales.
Une enveloppe de 5 millions d'euros pour créer 1000 nouvelles places d'hébergement, la possibilité de porter plainte à l'hôpital et des procédures en urgence dans les tribunaux avec des magistrats dédiés pour mettre à l'abri les femmes le plus rapidement possible. Une procédure déjà expérimentée au tribunal de Créteil où s'est rendue Corinne Audouin. Reportage.
À Créteil, la lutte contre les violences faites aux femmes est une priorité depuis plusieurs années. Avec un mot d'ordre, allez vite. Quand une femme demande à la justice une ordonnance de protection contre son conjoint violent. Tout est fait pour lui accorder l'aide juridictionnelle en urgence afin de payer son avocat, lui trouver un soutien psychologique et enfin tenir l'audience le plus rapidement possible. Le président du tribunal de grande instance, Stéphane Noël.
À l'heure d'aujourd'hui, les ordonnances de protection qui sont présentées sont jugées dans un délai de 3 semaines à 1 mois. C'est à la fois court et ça paraît bien long pour les victimes. Ce que l'on souhaite, c'est que, si possible, dans un délai de 15 jours, on puisse apporter effectivement une réponse judiciaire. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est que chacun travaille de manière cloisonnée. Souvent, des choses existent. Elles ne sont pas suffisamment connues, elles ne sont pas suffisamment utilisées.
En 2018, les juges aux affaires familiales de Créteil ont ainsi ordonné 102 mesures de protection. Cela permet par exemple de suspendre l'autorité parentale du conjoint violent avant même une condamnation. Et pour que les bonnes pratiques essaiment sur tout le territoire, chacun des 172 tribunaux français aura bientôt un procureur référent spécialisé dans les violences conjugales.
Et dans les Alpes-Maritimes, l'auteur présumé des coups mortels infligés à la jeune femme découverte morte samedi dernier a été mis en examen hier soir pour meurtre par concubin et placé en détention provisoire. Tous pollués, l'étude révélée hier par Santé publique France révèle l'explosion de particules polluantes dans l'organisme des plus de 1000 enfants et 2500 adultes testés. 70 polluants, perturbateurs d'hormones ou substances cancérogènes qui se cachent souvent dans des produits bon marché. Difficile pourtant de changer ses habitudes et c'est aussi une question de prix. Reportage de Sarah Nedjar sur le parking du centre commercial des Sept Collines à Nîmes dans le Gard.
À ma gauche, gauche, un supermarché estampillé discount et à ma droite, un magasin bio et sans emballage. Il faut l'admettre, il y a plus de personnes qui sortent de la grande surface. Ils avouent ne pas trop faire attention à ce qu'ils achètent.
Alors, je prends le moins cher déjà, mais les étiquettes, j'ai pas le temps de regarder. Je sais même pas ce qu'il y a. Parce que là, E86 ou ce qu'ils mettent en lettres, pour moi, c'est rien quoi. On sait pas ce que c'est.
Le parabène, par exemple.
Parabène, je crois que c'est du gras. Non, c'est pas ça.
Le parabène, c'est en fait un produit anti-moisissure qu'on trouve dans certains produits liquides. Devant le magasin bio, Evelyne et Antoine le savent très bien. En fait, ils l'évitent à tout prix.
Moi, je prends le plus naturel possible. Je fais mes produits nettoyage.
Vous les faites vous-même?
Ah oui, je les fais moi-même. Ça revient moins cher.
Comment vous faites?
Petit à petit, je ne suis pas venue de suite. Puis maintenant, je suis entièrement bio. Produits nettoyage, tout. Non, c'est bon. Avec les scandales qu'il y a, c'est pas une question de prix.
Dans l'étude menée par Santé publique France, les personnes au corps les moins pollués avaient tendance à choisir leurs aliments selon leurs composants et aérer régulièrement leurs pièces de vie.
On mange des perturbateurs endocriniens à toutes les sauces, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. Éliminer Roger Federer, le Suisse victime d'un mal de dos, s'est incliné en quart de finale de l'US Open, battu par le Bulgare Grigor Dimitrov 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2. Serena Williams, elle sera bien au rendez-vous pour la 13e fois de sa carrière après une qualification expéditive face à la chinoise Wang, battue 6-1, 6-0 en 44 minutes.
Et on termine sur un genre à part entière dans le cinéma français, Agnès, la réunion de famille.
Alors on pense bien sûr au savoureux Milou en mai de Louis Malle, à l'émouvant Skylab de Julie Delpy ou l'hilarant Un air de famille de Cédric Clapiche, pour n'en citer que trois. Un genre donc que Cédric Kahn décline à sa manière dans Fête de famille qui sort aujourd'hui sur les écrans avec Catherine Deneuve en mère d'une famille dysfonctionnelle, comme on dit aujourd'hui, face à ses enfants, jouée par Emmanuel Berco et Vincent Macaigne. Et bien sûr Eva Bétan, la fête va se gâter.
C'est un classique du cinéma français, la maison de famille bourgeoise à la campagne où l'on se retrouve. Anniversaire de la mère, Catherine Deneuve, guirlandes et chamailleries, on s'impatiente, ça ne peut pas être que cela, non. Comme un Bernard Lhermitte, chaque cinéaste habite le genre à sa manière. Cédric Kahn joue le retour impromptu de l'enfant prodigue, la fille de la famille borderline et même un peu plus que cela, pas assez folle entre guillemets pour être internée, suffisamment pour poser problème à elle-même et à son entourage, un entre-deux vu, ce n'est pas si fréquent, du côté de la famille des armée, Cédric Kahn.
J'ai trouvé le billet pour en parler par le groupe, par le temps très ramassé et par la comédie. La gravité arrive peu à peu. C'est vrai que ce sont des choses très difficiles à gérer. Il y a beaucoup d'affect aussi qui entrent en ligne de compte, beaucoup de culpabilité, de sentiment de faute, d'avoir mal fait quelque chose alors que peut-être pas. Donc il n'y a pas de bonne réponse. On voit bien, il y a ce débat-là dans le film aussi. Je voulais pas montrer que c'est simple.
Il y a une force, une créativité chez celle qui dérange. Emmanuel Berco, remarquable. Cédric Kahn, dans la plupart de ses films, s'est intéressé à la marginalité. Ici, il l'habille de charme, mais sa puissance de subversion demeure.
Et Fête de famille, qui sort aujourd'hui sur les écrans, est un film inter.
Merci Agnès Soubiran.